Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr. Au programme cette semaine, des Good Gones motivés et enthousiastes, prêts à partager une fois de plus leurs bons plans et leurs découvertes. Nous dirons adieu à Monsieur Hoffmann au théâtre de la comédie Odéon, une pièce qui a reçu 4 Molières et a été adaptée au cinéma. Nous partirons sur les pas de Giuseppe Pennon au couvent de la Tourette avec notre globe trotteuse de l'art contemporain Gaëlle. Et Guillaume nous fera partager son intérêt pour le dernier album de Michel Clou. Et bien entendu, nos Gédéons. Nos coups de cœur du moment. On débute avec la pièce qui fait l'événement au théâtre de la comédie Odéon, Adieu Monsieur Hoffmann. À voir absolument, nous avons rencontré son auteur. Je vous propose d'écouter notre entretien. Jean-Philippe Daguerre, vous êtes écrivain, metteur en scène à Lyon, à la comédie Odéon pour Adieu Monsieur Hoffmann. Quoi parle cette pièce ?
Alors nous sommes en 1942. À Paris, l'étoile jaune est décrétée pour les juifs et un employé est convoqué par son patron qui est juif. Il lui demande de garder sa boutique parce qu'il sent que ça sent pas bon. Donc le patron dit à son employé, occupe-toi de ma boutique puisque l'employé n'est pas juif et prends le risque de me garder un certain temps ici, le temps que ça se calme. Alors le patron fait fuir ses enfants et sa femme en Suisse. Et l'employé accepte le marché à la seule condition que son patron fasse un enfant à sa femme, puisque lui est stérile. Donc en gros, nous avons un marché qui est conclu entre un homme qui veut rester dans sa boutique et qu'on sauve sa boutique et un autre homme qui voudrait qu'on sauve son couple. Voilà, donc à partir de là, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais il se passe plein d'événements.
Comment vous est venue cette histoire ?
J'ai pas voulu faire une pièce historique, d'ailleurs ce n'est pas une pièce historique. Mon sujet, c'est vraiment le prix d'un enfant pour un couple. Donc moi, j'ai été entouré autour de moi d'amis à moi qui avaient des problèmes pour avoir des enfants et qui ont eu plusieurs années pour essayer d'en avoir et quand même en ont eu. Et quand j'ai vu ce cheminement terrible qu'ils ont vécu pendant plusieurs années, je me suis dit qu'est-ce que ça aurait été de cette situation dans une période où on n'avait pas les mêmes moyens pour avoir des enfants qu'aujourd'hui. Donc du coup, j'ai décidé de le plonger en 42. Alors j'aurais pu le plonger dans une autre période puisque mon sujet c'est vraiment le prix de l'enfant. Mais ça s'est passé en 42 et du coup, bah, évidemment, j'ai développé la partie historique, l'étoile jaune, tout ce qui se passe. C'est vrai que je pense que je suis marqué aussi par cette période par rapport à mon... Moi, je suis né en 1968, j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents, grands-parents qui ont été tous marqués par les deux guerres du XXe siècle. Et c'est vrai que mes arrière-grands-parents, notamment, habitaient une petite maison qui touchait le cimetière de Montauban. Et c'est vrai que j'adorais me balader avec mon arrière-grand-père au cimetière de Montauban où mon arrière-grand-père, bon papa Alban, me racontait la vie des morts. Et la vie des morts, elle était souvent liée aux guerres. Donc c'est vrai que ça avait quelque chose à la fois de terrible et de magique aussi, cette balade dans les cimetières. Donc moi, je me suis toujours senti bien dans les cimetières. L'histoire de France, bah, elle m'a marqué étant enfant. Et puis du coup, je pense que quand j'ai eu ce sujet du prix de l'enfant, bah, de façon inconsciente, j'ai eu envie de le ramener un petit peu à l'époque, à cette époque-là.
Le titre de la pièce doit peut-être évoquer quelque chose à nos auditeurs, puisque c'est le titre également d'un film qui est sorti en janvier 2022, avec des comédiens prestigieux.
Oui, bah, y a Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot, notamment.
Ouais, qui incarne justement ce couple et l'employé pour Gilles Lelouch et bien sûr Auteuil, le bijoutier. On vous a consulté pour faire ce film parce que finalement, ce n'est pas tout à fait exactement la même histoire.
Non, ce n'est pas la même histoire. Le film est inspiré de la pièce. Et le réalisateur, Fred Cavaillé, m'avait tout de suite dit, dès qu'il avait vu la pièce, comme il avait lu le résumé de la pièce avant de voir la pièce, il s'était imaginé plein de choses et il m'a dit j'aurais du mal à ne pas, par rapport au pitch de la pièce, à ne pas faire un film en enlevant ce que j'avais imaginé. Donc lui, il a laissé faire son imagination par rapport au sujet de la pièce. Il a pris les mêmes personnages au départ et puis il a gardé un fil conducteur de l'histoire, mais il est parti d'autres choix très importants et différents et qui marchent très très bien dans le film et qui fait que finalement c'est super parce que le film ce n'est pas la pièce. Donc ceux qui ont vu le film, ils vont être très surpris par la pièce parce que notamment toute la deuxième partie ne se passe pas du tout comme dans le film. Mais il y a quand même toujours cet univers, ce respect un petit peu du message aussi. Mais ce n'est pas traité de la même manière, ils n'ont pas le même destin, les personnages n'ont pas le même même destin. Donc on peut avoir vu le film et être très surpris de voir la pièce et vice-versa.
Je crois que le film a eu un bon succès d'ailleurs. Est-ce que ça aide une pièce aujourd'hui voilà. Est-ce qu'un film qui sort aide une pièce? Enfin voilà, j'aime bien cette correspondance entre le cinéma et le théâtre. Je trouve ça toujours passionnant.
C'est sûr que quand un film sort et s'il est de bonne qualité, il fait de la publicité au spectacle. Mais c'est vrai que je pense que le spectacle a fait beaucoup de publicité au film, hein, puisque nous avons fait presque 700 ou 800 000 spectateurs avant au moment où le film est sorti. Et le film a fait à peu près le même nombre d'entrées en très peu de temps. C'est ça qui est magique au cinéma et presque terrifiant pour nous au théâtre. C'est qu'il nous faut 5 ans pour faire 800 000 spectateurs. Mais au cinéma, une sortie qui dure sur 2 mois et demi, bah, tout d'un coup, ils sont là. Donc c'est fantastique. Donc tout le monde s'est fait de la publicité. C'est vrai que l'important aujourd'hui, c'est d'entendre parler du titre. Donc qu'on entende Adieu Monsieur Hoffman au cinéma, au théâtre ou à la télévision, parce qu'il y a aussi une captation faite par France Télévisions au théâtre du Châtelet qui a été vue par des milliers, encore plus de monde qu'à la télé, au cinéma, enfin au cinéma ou au théâtre. Donc du coup, c'est vrai que plus on parle de Adieu Monsieur Hoffman, bah, plus ça fait de la publicité au spectacle. Donc moi, j'ai la chance aussi, grâce à tout ça, de pouvoir continuer à jouer le spectacle, et notamment ici à Lyon.
Alors justement, ici à Lyon, la pièce va durer eh bien, quelques semaines, hein, du 18 octobre au 14 janvier. Donc on va avoir le temps de venir la découvrir, mais il faut vite se dépêcher pour que le bouche à oreille fonctionne. Adieu Monsieur Hoffman, c'est une distribution complètement modifiée par rapport à celle de Paris, puisque vous faites travailler des comédiens lyonnais ici.
Ben oui, c'est vrai que je suis parti comme de la mise en scène initiale, les mêmes décors, les mêmes costumes et la mise en scène que j'avais. Et puis après, évidemment, quand vous avez 5 nouveaux comédiens, ben il faut les diriger aussi et apprendre à les connaître, et ça influence aussi la façon de jouer le spectacle. Le spectacle, ce n'est pas des mathématiques, le théâtre. Donc même si on a un schéma qui est déjà inscrit, qu'on a prévu plein de choses, il n'en est pas moins que l'humain que propose chaque personnage, chaque comédien qui le joue, rend la pièce un petit peu différente. Donc à moi de m'adapter aussi aux personnalités qui sont ici, et à leur humanité, à leur sensibilité. Et du coup, moi, c'est vrai que je me régale de recréer le spectacle comme ça. Ça me remet à 6 ans en arrière quand j'ai fait la première du spectacle. C'est vrai que je me régale avec ces 5 comédiens qui sont vraiment formidables, et j'ai l'impression de repartir dans cette aventure à nouveau, et c'est un bonheur vraiment absolu.
Cette pièce a remporté également 4 Molières en 2018, donc c'est quand même une reconnaissance aussi de la profession. Est-ce que c'est important, j'imagine, dans votre métier?
Ouais, c'est sûr qu'au départ, on ne fait pas du théâtre pour avoir des Molières, mais quand ils vous tombent dessus, vous êtes content de les accepter, et vous savez très bien que ça vous fait de la publicité, et ça vous met en lumière. Donc c'est vrai que non seulement ça met en lumière de façon individuelle, puisque moi j'ai eu le Molière d'auteur pour cette pièce, mais également par rapport au spectacle, puisqu'il y a eu aussi le Molière du meilleur spectacle du théâtre privé. Donc du coup, évidemment, ça lui donne beaucoup plus une destinée plus longue. On va fêter bientôt la 1000e représentation, et c'est évident que si nous n'avions pas eu les 4 Molières, on n'en serait pas à 1000 représentations. Ça aide énormément au destin d'un spectacle. Donc évidemment, je ne crache pas dans la soupe. Ça fait plaisir, évidemment, mais c'est vrai que ça permet aussi de faire vivre plus longtemps un spectacle, surtout quand on n'a pas de tête d'affiche, puisque je fais un théâtre où il n'y a pas de tête d'affiche pour mettre en valeur la qualité d'un comédien. On le sait tous au théâtre, ce n'est pas parce qu'on est célèbre qu'on joue mieux que les autres. Dans d'autres métiers, peut-être que c'est le cas, mais au théâtre, il y a tellement d'acteurs extraordinaires de théâtre totalement inconnus qui ne passent pas à la télé, qui ne veulent pas passer à la télé, ou qui ne perdent pas de temps à passer à la télé pour pouvoir faire leur métier parfaitement au théâtre. Donc c'est surtout un hommage à ces comédiens-là. Donc ces comédiens-là, je trouvais formidable de faire un spectacle aussi longtemps sans avoir aucun acteur célèbre dans la pièce, mais par contre que des comédiens formidables.
Aujourd'hui, vous êtes toujours auteur. Est-ce que vous travaillez sur de nouveaux textes, de nouvelles pièces à monter? Dieu Monsieur Hoffman vous accompagne depuis 5 ans. J'imagine qu'il y a d'autres projets dans votre existence.
Bah depuis, j'ai écrit 6 pièces, en fait, depuis Hoffman. Et j'en ai créé 2 déjà. C'est La Famille Ortiz et Le Petit Coiffeur, qui continue encore à jouer. On va fêter la 300e représentation. J'ai Le Voyage de Molière, que j'ai coécrit avec Pierre-Olivier Scotto, qui arrive à Paris, qui a été un gros succès à Avignon. Et après, j'ai Le 8e Ciel, une autre pièce que j'ai écrite. J'ai aussi Le Charbon dans les veines, une pièce que je crée au Théâtre Rive Gauche en 2024. Et voilà, donc j'ai plusieurs spectacles. Ça m'a évidemment mis en confiance, parce que c'était fondamentalement un peu la première pièce que j'ai vraiment écrite, puisque moi, je considérais que j'étais plus un metteur en scène qui a écrit une pièce. Mais c'est vrai que comme la pièce a eu beaucoup de succès, ben, ça m'a donné confiance. J'en ai écrit d'autres. Et puis, par bonheur, les directeurs de théâtre, les producteurs, ils ont tous eu envie de les produire, et a priori, ils sont satisfaits. Et puis, moi, je suis satisfait, parce que ça me permet de continuer à écrire des pièces et à les jouer devant les spectateurs.
Finalement, est-ce que c'est un autre métier que d'écrire justement une pièce?
Bah, écrire une pièce, c'est pas écrire un roman ou écrire quoi que ce soit. Moi, je me sens totalement incapable d'écrire un roman aujourd'hui. Je n'ai pas assez de culture par rapport à ça. Mais je pense que le théâtre, c'est quelque chose de très spécifique. Il faut avoir une expérience, je pense. C'est plus facile d'écrire du théâtre quand on sait ce que c'est que de jouer. Puis, je suis comédien aussi de formation. Je joue aussi dans Adieu Monsieur Hoffman, dans l'alternance depuis 4 ans. Et c'est vrai que je pense que je suis nourri, je suis infusé de théâtre, puisque j'ai monté aussi énormément de grands classiques. Ma passion au départ, c'est les grandes pièces de Molière, les grandes pièces du répertoire. J'ai monté Cyrano de Bergerac, Le Cid, tout ça. Et je pense qu'à force d'être nourri par la grande écriture classique, j'ai cette connaissance, un peu à force de faire des spectacles, d'aller les voir, je pense que tout d'un coup, sur le tard, puisque j'ai 54 ans et j'ai commencé à vraiment écrire à partir de 48 ans, j'ai eu envie de me lancer ce défi d'écriture, qui s'est bien passé. Mais je pense que j'aurais été incapable d'écrire une pièce si je n'avais pas vécu mon expérience de metteur en scène et de comédien au théâtre, dans le grand théâtre classique, dans ces grandes œuvres dont je me suis inspiré. En tout cas, j'étais infusé par tout ça. Et du coup, quand j'écris très vite, ça jaillit très vite. J'écris Hoffman en 9 jours. Et toutes mes pièces, je les écris en moins de 10 jours, ma V1, la première version. Toujours en moins de 10 jours. Donc je suis très... je suis nourri d'un sujet, je rentre dedans et après je nettoie un petit peu après. Mais c'est vrai que je suis assez... c'est une nouvelle vie, c'est vrai, et ça m'empêche pas de continuer à jouer, à continuer à mettre en scène, mais de découvrir cette émotion de livrer comme ça une pièce sur le papier, c'est vrai que c'est bouleversant. Ça a été quelque chose que je n'ai pas du tout vu venir, je ne pensais pas, je n'avais aucune ambition d'écriture il y a à peine 7-8 ans, c'est venu d'un coup.
Merci beaucoup Jean-Philippe Daguerre. Je rappelle Adieu Monsieur Hoffman au théâtre de la Comédie Odéon, je vais y arriver, du 18 octobre au 14 janvier, donc on a le temps, mais venez vite découvrir cette pièce. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On enchaîne avec toi, Guillaume, et finalement, quelqu'un qui n'est plus un inconnu pour nous, Gaël et moi. Je parle de Michel Clou, parce que tu nous en parles régulièrement.
Oui, c'est vrai.
Et tu avais évoqué notamment un livre qui t'avait beaucoup touché autour du milieu des ouvriers.
Oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais complètement oublié mais effectivement, le livre à la ligne de Joseph Pontus, qui est
absolument
malheureusement décédé, et qui avait été mis en musique par, entre autres, par Michel Clou, et puis par Pascal Boisise, et puis j'ai oublié le nom du troisième larron. Et donc, ça avait été un spectacle assez étonnant.
C'est pour ça que ce n'est pas un inconnu.
Non, c'est pas un inconnu.
Vois,
et puis surtout, alors pour peut-être certains auditeurs, c'est pas du tout un inconnu, Michel Clou, parce qu'il a une longue carrière finalement, puisqu'il faisait partie d'un groupe assez mythique français dans les années 90 qui s'appelait Diabol Gomme. Et puis ensuite, il a fait d'autres groupes et il était à la naissance d'un label nantais qui s'intitule Lithium, qui a découvert Dominica, Mendelssohn justement, et puis Françoise Breut, et puis plein d'autres. Et là, donc Michel Clou nous propose un nouvel album. Alors c'est un petit peu particulier parce que vous savez, on est un peu privilégié, on reçoit les albums un peu en avance. Là, cet album sort le 18 novembre, donc c'est pas encore pour tout de suite. Mais en fait, quand on reçoit ces albums, eh bien, on les écoute. Ça paraît bizarre, mais voilà, on les écoute, quoi. Et celui-ci, moi, quand je l'ai mis dans la platine CD de ma voiture, eh bien, au bout de 3 ou 4 chansons, j'ai arrêté ma voiture sur le bas-côté, tellement j'ai pris une claque fantastique. Alors, moi, j'aime beaucoup déjà Michel Clou, j'aime son propos. Il y a peu d'artistes comme ça qui ont un propos politique, on peut le dire. Alors on va me dire tout est politique, mais enfin, il y a peu d'artistes, de chanteurs qui finalement tiennent un propos sur la société que l'on vit actuellement. Et donc cet album qui s'appelle Backflip au-dessus du chaos. Alors backflip, c'est un terme de je sais plus d'ailleurs, de skateboard, je pense, sans doute. Au-dessus du chaos, évidemment, ça parle de notre société d'aujourd'hui. Mais Michel Clou, il a l'habitude de faire ça. Et donc, il explique que quand il a voulu faire un nouveau disque, eh bien, se pose toujours la question de la répétition. Est-ce qu'on refait un peu la même chose ? Lui, il avait plutôt tendance à mettre beaucoup de guitare dans ses morceaux. Et là, il y a de la guitare, mais il y a aussi beaucoup d'instruments, effectivement, électroniques. Et par moments, alors, comparaison n'est pas raison, mais il y a des morceaux qui ressemblent un peu à du Prodigy. Ça tabasse quand même pas mal, quoi. Mm-hmm. Mais ça tabasse à la fois musicalement, mais aussi par les
mots.
Dans les mots, voilà. C'est vraiment un album dont on ressort un petit peu... un peu knock-out, quoi. Enfin, on est un peu, voilà, on s'est pris un gros coup dans la tête, et voilà. Mais en fait, puis aussi, dans ce disque, il y a aussi cette notion du temps qui passe, parce que lui aussi, il est comme nous, comme tout le monde, il vieillit. Et donc, il y a cette notion de vieillir, effectivement, en étant artiste, et comment on met ça dans des textes. Et puis, il clôt son album, quand même, par une internationale 2022, que je trouve un pied de nez, finalement, à beaucoup de nos hommes et femmes politiques d'aujourd'hui. Alors, on va écouter un morceau.
Absolument.
Il se trouve que ce morceau va être bientôt mis en image, hein, dès la semaine prochaine.
Il y aura un clip.
Il y aura un clip, effectivement. Et ce morceau s'intitule « Mon ambulance ».
D'écouter Michel Clou, Mon ambulance, me semble-t-il.
Tout à fait, Mon ambulance, hein, vous avez vu, c'est à tombeau ouvert,
ouais.
Pour reprendre le titre d'un film de Martin Scorsese.
Ouais, absolument.
Alors, bon, qui était un titre français qui était un petit peu étrange, puisqu'il s'intitulait Bring Out the Dead. Mm. Donc, bon, pourquoi tombeau ouvert, mais bon, passons. Mais en tout cas, cette ambulance de Michel Clou, hein, roule à fond la
caisse, hein,
à très vive allure. Et ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est les sons synthétiques. Et puis, vous avez peut-être fait attention, hein, à un moment, ça saute un petit peu. On a l'impression que c'est notre CD qui marche mal. Et voilà, en fait, voilà, on est en plein dans le chaos. Et je trouve que c'est un disque salvateur. Alors, je dis pas que les disques sauvent la face du monde, mais ça fait un petit peu réfléchir, parce que
certains font du bien.
Bon, même si j'aime beaucoup les artistes comme Benjamin Biolay, mais en même temps, voilà, les histoires un peu d'amour, un peu niaises,
on y en est aussi dans, dans le divertissement,
un petit peu marre, quoi. Et là, la production du disque est très abrasive. Hein, il a fait ça à la maison. Je sais qu'il va tourner avec ce disque très prochainement,
mais on n'a pas encore de date.
Non, il n'y a pas de date. Effectivement, il n'y a pas de date, mais par contre, ils seront plusieurs sur scène et il y aura quand même des guitares, parce qu'il peut pas trop s'éloigner. Des guitares. En tout cas, cet album sort le 18 novembre sur le label Ici d'ailleurs, et je vous invite vivement à l'écouter si vraiment vous avez envie de la musique, comme disait Bernard Lenoir, pas comme les autres.
Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour Gaël, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique ? Il me semble bien qu'il s'agit d'un fameux Italien qui adore la nature.
Tout à fait, je vais vous parler aujourd'hui de Giuseppe Pennon qui est présent au couvent de la Tourette et qui mène depuis 2009 une programmation annuelle d'exposition d'art contemporain. Après François Morlaix, Anish Kapoor ou Ansel Kiefer, pour ne citer que quelques artistes, les frères dominicains accueillent pour la 15e édition l'un des chefs de file de l'Arte Povera, l'Italien Giuseppe Pennon. Frère Marc Chauveau, commissaire de l'exposition, souligne que Pennon a construit, suite à plusieurs visites au couvent, un dialogue subtil entre l'architecture de béton et la nature. Cette conversation se matérialise dans un parcours où des œuvres anciennes côtoient des créations spécifiquement réalisées pour l'événement. L'exposition s'ouvre sur des œuvres qui mettent en exergue la pratique artistique caractéristique de Pennon, à savoir mêler étroitement l'artifice et la nature. Soyez attentifs aux trois pierres disposées au sol. L'une est naturelle, soit l'axe de la nature, et les deux autres artificielles, soit l'axe de l'artifice. Je vous défie de trouver laquelle est la vraie, car les pierres en acier et en bronze font tout autant pierre que la vraie pierre. Pennon interroge « Qui crée quoi et où demeure l'illusion ?» Avec Anatomie 6 de 1994, le jeu entre artifice et nature se fait avec du marbre de Carrare et de l'eau. Pennon sculpte le marbre en reproduisant l'érosion du fleuve. L'objectif n'est pas tant la ressemblance mimétique, mais l'identification au travail du temps. Le geste du sculpteur est ici identifié à celui du fleuve. Nos existences se rapprochent de celles d'un fleuve, en perpétuel mouvement et changement. Est-ce un écho à Héraclite ? On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ? Pennon aime nous donner à voir l'imperceptible. Cas d'une autre sculpture de 1981 intitulée « Souffle ». Quoi de plus immatériel que le souffle ? Or, l'artiste le transpose formellement en terre cuite. Dans la salle du chapitre du couvent, un livre est placé devant une grande huile sur toile. Le livre est le Martyrologium de Rome. Il date de 1925. Imaginez combien de fois il a pu être feuilleté ainsi que la multitude d'empreintes que sa couverture rouge a pu recueillir. Faisant face à ce livre-objet, une grande toile. L'œuvre intitulée « Missel dominicain de la Tourette » a été créée pour l'exposition. Son format, 1,82 m de haut sur presque 3 mètres de long, est déterminé par celui du Martyrologium. L'œuvre correspond à des dimensions 7 fois plus grandes que le livre ouvert. Chaque marque rouge de la toile évoque une empreinte de Pennon. Il a préalablement trempé son doigt dans la même couleur que la couverture du Martyrologium de Rome. Certains verront une connotation avec le sang versé des martyrs ou la passion du Christ, mais Pennon n'attribue pas d'analogie religieuse. Avec ses empreintes qui ressemblent à des feuilles, on retrouve la fascination de l'artiste pour la stylisation de la nature. L'œuvre Missel dominicain de la Tourette est un paysage rendu visible. Est-ce une référence à Paul Klee qui disait « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Autre œuvre datée de 2010, les yeux fermés. Elle se présente sous la forme d'un triptyque qui frôle les 4 mètres de long. De part et d'autre du panneau central en marbre de Carrare, deux panneaux accueillent une multitude d'épines d'acacia collées sur la toile. Les épines, si saillantes, semblent plus robustes que le marbre du panneau central. Prenez un peu de recul et regardez attentivement. Vous allez percevoir deux yeux fermés qui donnent son titre à l'œuvre. Placés dans le réfectoire du couvent, ces paupières closes peuvent remémorer l'époque où les frères mangeaient en silence. On pense aussi à une œuvre de Pennon de 1970, « Renversez vos yeux ». Un portrait photographique de l'artiste dans lequel ses yeux portent des lentilles miroirs. Quel échange possible quand votre propre reflet se fixe sur les yeux de l'autre ? Avec ses lentilles miroirs, ou les yeux fermés au couvent, Pennon questionne le regard et l'aveuglement volontaire. Télescopage saisissant avec l'actualité artistique, puisqu'à Paris, le Jeu de Paume programme actuellement une exposition autour de l'Arte Povera. Et que comporte l'affiche ? L'œuvre « Renversez vos yeux » de Pennon. Pour et avec et sur le couvent, Pennon a créé un dialogue exclusif avec la série Le Bois Sacré, Les Frottages. L'artiste donne à voir les traces du végétal sur les murs de béton du couvent, c'est-à-dire les empreintes des planches de bois utilisées pour le coffrage. Il a fait de nombreux relevés, aussi bien dans la crypte, l'église, sur les pilotis ou encore sur le toit-terrasse. Certains architectes, pour qualifier la texture des murs, parlent de la peau du béton. Chez Pennon, l'analogie se fait entre la peau du bois et celle du béton. Mais pour l'artiste, nous pourrions également parler de peau humaine. Seul lui a vécu l'expérience suivante. Alors l'anecdote m'a été confiée par Gabriel Murga, que je remercie encore pour son accueil. Donc un jour, Pennon a pris dans ses bras un pilier du réfectoire du couvent, mais l'étreinte avec le bois du coffrage a été fatale. Pennon a eu une écharde, soit plus qu'une empreinte, un poinçon. La fascination de Pennon pour la nature est quasiment charnelle. Bon, je reviens à la série Le Bois Sacré, Les Frottages. Chaque œuvre a été faite en deux temps. Tout d'abord, la réalisation de l'empreinte en plaçant une feuille contre le support, feuille ensuite martelée par l'artiste, puis un relevé de l'empreinte au pastel gras. Ainsi, seules les aspérités sont colorées. Pour le fond de chaque frottage, Pennon a choisi une couleur issue du nuancier créé par Le Corbusier. Ce nuancier qui n'est pas connu par de nombreuses personnes, mais sachez que ce nuancier comprend 63 teintes de la polychromie architecturale. Il a été conçu en 1931, d'abord avec 43 nuances, puis a gagné 20 nouvelles couleurs, plus intenses en 1959. Pennon a également réalisé un livre d'artistes numéroté, comprenant la reproduction sur toile des 63 frottages, correspondant donc aux 63 couleurs du nuancier. Un exemplaire figure dans l'exposition. D'autres œuvres sont issues d'une intervention directe de l'artiste sur des végétaux. Cas de la série « Répéter la forêt » qui figure dans l'espace menant à l'église. Chaque œuvre est une sculpture où Pennon a creusé le bois d'une poutre pour redécouvrir formellement chaque branche et ses nœuds. Avec cette action qui est inverse au mouvement de l'industrie qui, elle, part du bois pour produire un objet manufacturé, Pennon dégage l'arbre de la poutre afin de retrouver donc l'arbre originel. Procédé similaire dans l'église où une gigantesque poutre en mélèze de 8,35 m de long est placée au sol. Intitulée « Arbre en torsion à gauche », l'œuvre disposée perpendiculairement à l'autel peut rappeler pour certains la forme d'une croix, pour d'autres la couronne d'épines, mais ces rapprochements demeurent des ressentis personnels. Enfin, puisque l'univers de Pennon est multisensoriel, soyez attentifs à Espace de lumière de 2008. Penchez-vous bien au-dessus de l'œuvre, au fond du mélèze qui a une forme de gramophone, vous serez face à un reflet diffus de vous-même et surtout serez saisi par l'incroyable parfum que dégage la résine. L'exposition Giuseppe Pennon au couvent de la Tourette est à voir jusqu'au 24 décembre 2022. Plus d'informations sur couventdelatourette.fr et sachez également qu'un catalogue a été publié chez Bernard Chevaux, éditeur.
Merci beaucoup Gaëlle, ça donne envie de redécouvrir ce couvent de la Tourette et bien sûr les œuvres de Giuseppe Pennon qui est vraiment un artiste charmant, il parle très bien français. D'ailleurs, hein, vous pouvez écouter des vidéos, l'entendre parler de son travail. Il en parle évidemment très, très, très bien. Merci beaucoup, Gaëlle, d'avoir partagé ça avec nous. Guillaume, cette semaine, il s'agit pour ton Gédéon d'un groupe mythique qui fait l'objet d'une série sur Arte, me semble-t-il.
Tout à fait. Alors, on peut regarder effectivement Le Monde de Demain, qui était le titre des chansons phares du groupe NTM dans les années 90. Et donc, cette série sur Arte est visible en totalité. Vous pouvez la binge, je ne sais plus comment on dit, j'y connais rien. Voilà, binge quelque chose. Moi, pour moi, les binges sont des pommes de terre, mais bon, passons. Vous pouvez la regarder en entier, voilà, en une journée, en une soirée, en une nuit. Et c'est une série vraiment, vraiment très intéressante. D'abord parce que j'aime beaucoup, en fait, les personnes qui l'ont réalisé. C'est un couple, Catel Kileveré et j'ai oublié son nom, Elier Cisterne. Ils ont des prénoms et des noms un petit peu étranges, mais en tout cas, c'est un couple à la ville. Et ces deux réalisateurs et réalisatrices ont déjà fait des films très intéressants, dont Suzanne, et Réparer les vivants pour l'une, et un film consacré au street art, on en parlait la semaine dernière avec Peinture Fraîche, un film qui s'intitule Vandale, et je vous invite aussi à aller voir Vandale, parce que c'est un film passionnant sur le street art et la notion dans la rue, est-ce que l'art doit être dans la rue, est-ce que l'art doit être dans les musées, enfin bon. C'est vraiment un film intéressant. Et donc dans cette série, eh bien, on prend le groupe NTM, mais avant sa naissance, et c'est ça qui est passionnant. Il y avait déjà eu un film suprême cette année au cinéma qui évoquait NTM, mais là on est avant la naissance du groupe, et les comédiens sont formidables. Alors évidemment, il y a un comédien qu'on a déjà vu, c'est Anthony Bajon, parce qu'il avait joué
dans la prière,
il était excellent. Bon, il joue dans le film qui cartonne sur Netflix pour de très mauvaises raisons, Athéna, ce film ultra violent sur la banlieue de Romain Gavras, moi que j'avoue que je n'aime pas du tout, mais ça c'est un parti pris personnel. Mais là, cette série, vraiment, elle est passionnante. D'abord, voilà, on réécoute des titres phares de NTM, et puis voilà, on découvre finalement cette banlieue de la fin des années 80, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. Hein. Ce monde de demain qui a été écrit, cette chanson, en 1990, on s'aperçoit que ben, on pourrait l'écrire et la chanter de nouveau aujourd'hui. Mmh. Elle fait écho aux gens d'aujourd'hui. Donc voilà, franchement, je vous invite à aller voir cette série. Donc vous pouvez la voir sur Arte Replay. Elle commence à être diffusée, je crois, sur la chaîne. Mais en tout cas, elle est en replay. Et je vous invite vivement à la regarder. Voilà, Le Monde de Demain.
Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on va poursuivre nos Gédéons avec toi, Gaëlle. De quoi vas-tu nous parler cette semaine? Un Gédéon à nous livrer, peut-être?
Un Gédéon, tout à fait, qui commence par deux citations. L'une de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et l'autre de Marcel Proust, « L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions ». Que saisissez-vous dans ces deux citations? Les opportunités de l'inattendu. Mon Gédéon de la semaine est le livre « Les opportunités de l'inattendu », « Quand l'imprévu devient l'occasion de transformer sa vie », de Michel-Amélie Favre aux éditions Duno. Il faut promouvoir cet ouvrage et plus largement encore en période de crise. N'oubliez pas qu'en chinois, le mot crise, Waiji, se compose de deux caractères, l'un signifiant le danger et l'autre l'occasion à saisir, soit l'opportunité. Alors, la sérendipité, Keizako. C'est le don de faire, par hasard, des découvertes fructueuses. C'est lorsque vous trouvez, de manière imprévue, quelque chose de nouveau que vous ne cherchez pas. Michel-Amélie Favre parle aussi de trouvailles augmentées. La sérendipité, emprunt de l'anglais serendipity, est un mot entré dans le dictionnaire français assez récemment, en 2014. Alors, quelques exemples de sérendipité? Connaissez-vous le chercheur anglais qui oubliait régulièrement ses boîtes de culture? Une année, en rentrant de vacances, il eut la surprise de découvrir qu'une forme de moisissure avait empêché le développement de bactéries. Alexander Fleming venait de découvrir la pénicilline. Et ce berger qui, ayant oublié un fromage dans une grotte, découvrit le roquefort. Le monde scientifique, mais aussi artistique, regorge de sérendipité. Picasso disait « Combien de fois ?» Au moment de mettre du bleu, j'ai constaté que j'en manquais. Alors j'ai pris du rouge, je l'ai mis à la place du bleu. Vanité des choses de l'esprit. Et Francis Bacon, je le cite. La peinture est pour moi comme un accident. Je la conçois, mais je n'arrive presque jamais à ce que j'avais prévu. Elle se transforme elle-même. En fait, je sais rarement ce que sera la toile et beaucoup de choses se produisent par accident. Parce que cela devient un procédé de savoir quel élément de l'accident je vais choisir de préserver. Alors, vous souhaitez, vous aussi, être en condition d'accueillir cette alchimie du hasard? Je vous communique l'un des conseils de Michel-Amélie Favre. Tout est question d'attention pour saisir le hasard heureux. Je vous redonne donc le titre du livre, « Les opportunités de l'inattendu, quand l'imprévu devient l'occasion de transformer sa vie » aux éditions Duno.
Merci beaucoup Gaëlle, ça donne à penser en effet. Enfin moi je vais terminer cette émission. Cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée avec Antoine Cossé, enfin de Antoine Cossé, signé par Antoine Cossé, et son dernier album Métax, édité chez Cornelius. Après une enfance en banlieue parisienne, Antoine Cossé s'installe à Londres et sort diplômé de Camberwell College of Arts en 2006. Il vit et travaille toujours à Londres depuis la presse britannique, américaine et française, The Guardian, le New York Times ou encore les In Rock, pour parler de titres français, lui passe régulièrement commande d'illustrations. Parallèlement, en bande dessinée, son parcours s'inscrit résolument dans celui du courant indépendant, avec une appétence pour la mythologie, pour les récits un peu étranges. Pour son dernier album, Métax, il décrit une société en crise qui rappelle étrangement la nôtre. Manque de ressources énergétiques, étranges maladies et pouvoir omniprésent. Bref, avec ses compositions et son découpage cinématographique, Métax nous transporte dans un univers suffocant où les routes sinueuses semblent ne jamais mener nulle part pour des motards perdus dans des espaces déformés par l'extraction du fameux Métax. Le noir et blanc prime, créant des paysages angoissants. La couleur surgit quasiment à la fin du récit, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Métax est une œuvre poétique, c'est une exploration de la cupidité, de ses conséquences et de la possibilité de lui échapper. Si vous ne connaissez pas encore Antoine Cossé, courez acheter Métax. Vous ne le regretterez pas, c'est promis. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.